Hippolyte Taché, un amour fatal. Un soir d'été, sur la grève du Saint-Laurent, à un demi-mille environ de l'endroit où l'église de Kaufwalger s'enlève aujourd'hui, un jeune homme cheminait au pas de son cheval. C'était l'heure du crépuscule, et déjà le fleuve et la côte se confondaient dans la vague obscurité de la nuit. Le cavalier avait abandonné la reine au cou de sa monture, et l'œil perdu sur les flots, il laissait nager sa pensée dans le pays du rêve. L'année 1837 comptait 8 mois. Un souffle d'indépendance avait passé dans le pays, et ce long frissonnement qui marque l'attente impatiente baignait les populations. Le peuple, fatigué d'une domination déshonorante par ses abus, révolté du refus de justice constant du Parlement anglais, avait soif de liberté. Et dans ce fécond enthousiasme qui se levait au prix du sang de quelques patriotes pour assurer notre liberté, celle de l'avenir, il se levait en masse pour marcher à sa délivrance. Henri Dumas était un de ces fils de la liberté, un des membres de cette association au sein de laquelle la réflexion ne fut pas toujours à la hauteur de l'entraînement, mais dont le patriotisme ardent et l'héroïque courage déterminèrent le premier pas dans la révolte. Et au moment où nous le trouvons à Kaufwalger, il attendait depuis des jours, 2 jours, les ordres du chef. La brise du soir lui apportait le bruit des rapides, et dans la sérénité de cette nature qui l'entourait, songeant à l'avenir, il se laissait bercer par les harmonies des flots et de la nuit. Tout à coup, s'éleva dans l'espace une voix grave et pure qui chantait sur un rythme étrange une chanson populaire dans la tribu des Iroquois. Henri releva la tête, mais sans étonnement, comme s'il avait reconnu une voix amie. Il avait passé les premières années en ce lieu, et tout enfant, il s'était souvent mêlé dans les jeux de ces petits sauvages de la tribu des Iroquois. Il connaissait depuis longtemps une brune jeune fille, enfant du chef de la tribu, dont l'étonnante beauté avait jadis gagné sa sympathie et plus tard son admiration. Il venait de reconnaître sa voix, et quand l'Indienne se tut, il reprit d'un accent mâle et vibrant le second couplet de la chanson. Et Henri finissait à peine que le bruit des avirons dans l'eau attira son attention, et il distingua une légère embarcation au fond de laquelle se dessinait une svelte taille d'une femme. En 2 bonds, il fut à l'endroit où accosta la pirogue. La lune gravissait maintenant avec la majesté d'une souveraine les degrés de l'horizon constellé. Sa pâle lumière donnait à la surface du Saint-Laurent des teintes d'argent que les ondulations des vagues interrompaient çà et là. Fleur de printemps, souffre-t-elle ce soir? Que sa voix est triste comme un chant de mort, fit le jeune homme. Oh, je souffrais tout à l'heure, répondit la jeune femme. Mais la présence de mon frère au visage pâle a ramené la joie dans ma pensée. La fiancée de Castor Bleu a donc quelquefois des rêves pour d'autres? Que lui? Interrogea gaiement Henri. Oh, fleur de printemps, n'a pas eu depuis bien des lunes d'autres songes que pour le vaillant français qui venait d'enterrer la tâche à hache de guerre et qui partira demain pour la défense de mon pays. Et en parlant ainsi, l'Indienne fixait sur Henri ses yeux plus noirs que la nuit. Ce dernier n'avait jamais éprouvé pour une jeune fille autre chose que de l'admiration. Mais à cet instant, elle était devant lui si belle, si rayonnante. La nuit leur faisait une telle solitude qu'il se sentit ému. Il se pencha vers elle. Ma sœur, sait-elle ce qu'il y a de beauté dans son regard et ce qu'il y a de éveil dans le cœur de ceux qui l'approchent? La jeune fille ne répondit pas. Elle se courba, mais une larme perla à travers ses cils. Henri vit clair dans l'âme de cet enfant qu'il aimait et qu'il avait ignoré. Il devina que la passion qui bouillonnait dans son sein et empoignée par ce courant magnétique qui s'échappait d'elle, se grisant dans la contemplation de cette femme jeune et belle, réalisant d'un éclair de pensée tout ce qu'il y avait d'amour dans son cœur, il saisit brusquement la jeune fille par la main et l'attira à lui, posa ses lèvres sur sa bouche en murmurant « Je t'aime, je t'aime !» Le lendemain, il quittait Caughnawaga et Fleur de Printemps, cachée à la fenêtre, le regardait passer et en lui rendant un long baiser d'adieu à son baiser de la veille, elle disait « Oh, je lui garderai ma foi, car il m'a dit qu'il m'aime !» Elle conservait un souvenir. La veille, au soir, en partant, Henri avait tiré de sa ceinture un joli poignard de nacre frustré d'argent et le lui avait donné. « C'est pour me garder ton amour !» lui avait-il dit. Le castor bleu, bien que fiancé à Fleur de Printemps, s'aperçut de l'indifférence profonde de la jeune fille à son égard. Il découvrit bientôt qu'un autre avait toutes ses pensées et que Henri Dumas était aimé d'elle. Quelque temps après le départ de ce dernier, l'Indien apprit qu'il venait d'être fait prisonnier à Montréal, sous une accusation de haute trahison. Et, croyant ébranler les sentiments de la jeune fille, il s'empressa de lui annoncer cette nouvelle. Fleur de Printemps ne manifesta qu'un étonnement. Elle était déjà informée de ce fait. Seulement, à son air sombre, le castor bleu devina qu'elle roulait quelques sinistres pensées, projets dans son cerveau, et il décida de l'épier continuellement, espérant ainsi surprendre son secret. Un jour, il vit la jeune fille sortir de sa demeure et se diriger vers le rivage. Arrivée là, elle détacha une barque et, s'installant silencieusement, elle se guida vers le large. L'Indien sauta dans une embarcation et, convaincu que Fleur de Printemps traversait le fleuve pour se rendre ensuite à Montréal, il la suivit en essayant de se dérober à sa vue. Mais celle-ci s'était aperçue et, appuyant avec énergie sur son aviron, elle enlevait vigoureusement sa barque. Toutefois, Castor Bleu, beaucoup plus fort qu'elle, gagnait du terrain à vue d'œil. Tout occupé à cette course presque fantastique, l'Indien et la jeune fille n'avaient pas remarqué que le courant les emportait à la dérive et que les rapides étaient tout proches. Il était trop tard maintenant pour revenir sur leurs pas. Et à moins d'un hasard miraculeux, la mort, une mort atroce, vue de face et dans son horreur, les attendait dans quelques instants. Une pensée désespérée traversa l'esprit de Castor Bleu. En un clin d'œil, il rejoignit Fleur du Printemps et s'élança dans son embarcation pendant que la sienne sautait déjà sur les houles et se perdait dans les flots d'écume. Deux cris stridents traversèrent la nuit pendant que, dans l'obscurité, à travers les vapeurs des eaux, se dressaient deux formes enlacées. Les vagues se brisaient les unes contre les autres, en frappant sur les rochers, rejaillissaient en poudre blanche et en flocons de neige. La barque disparut dans ce tourbillon. Le lendemain, le fleuve apporta à la côte deux cadavres. L'un était celui de Fleur de Printemps, dont les longs cheveux couvraient les épaules nues et cuivrées. L'autre, celui de Castor, qui portait en pleine poitrine le poignard qu'Henri Dumas avait donné à la jeune fille pour garder son amour. Fidèle à sa parole et jusque dans la mort, elle avait gardé la virginité de son âme et était tombée victime héroïque de son cœur et de son dévouement. À l'heure où s'accomplissait ce drame, Henri, qui n'avait été retenu que quelques jours, parlait avec enthousiasme de sa délivrance et des luttes de la liberté aux genoux d'une blonde jeune fille qu'il écoutait mélancoliquement et sur laquelle il reposait avec amour son œil limpide. Sa pensée était loin de cette pauvre petite Indienne qui avait cru en lui sur un cri de passion échappé de sa bouche, qui avait formé dans sa faiblesse un rêve pour sa libération et qui, en voulant le réaliser, donnait sa vie à qui n'avait guère songé qu'à ses lèvres roses et à son opulente chevelure noire. Ottawa, 25 septembre 1884.